Un acteur ment, son identité n'est pas la même que celle du personnage qu'il interprète.
François Perrier.
Mais il faut qu'il fasse croire au public qu'il est ce personnage. Et en fin de compte, dans cette ambiguïté, il y a quelque chose de très franc. Parce que, en fin de compte, le public sait très bien que les aventures que nous racontons sur scène, nous ne les avons pas vécues.
Ça peut pas faire de mal.
Nous leur donnons l'accent de la vérité, et au fond, ce que souhaite particulièrement le public, c'est qu'on le fasse entrer au maximum dans notre mensonge. Et au fond, il applaudit et se réjouit quand on a bien menti, quand on les a entraînés dans une histoire qui n'existe pas, qui n'a existé que dans l'esprit de l'auteur, et qu'on vient de la jouer devant eux comme si elle était la réalité.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Les plus beaux jardins sont peints sur des toiles et une cheminée en trompe-l'œil diffuse pour moi la plus douce des chaleurs. J'ai passé le plus clair de mon temps sur scène. À force, le faux-semblant est devenu plus vrai que la réalité et c'est au milieu du carton-pâte que j'ai fini par me sentir le plus vivant. Je me souviens à ce propos d'une histoire que m'avait relatée Pierre Brasseur. Lors d'une tournée théâtrale, un jour qu'il avait passé la nuit à boire, il s'est trouvé incapable de sortir de son lit. Il a fallu que l'administrateur du théâtre aille le chercher à son hôtel et le porte sur son dos jusqu'à la loge. L'acteur ne se souvenait plus de rien. On lui a passé son costume du premier acte, une saillante tenue de joueur de tennis, et on l'a porté sur scène. « J'avais un mal de tête à tout casser », m'a-t-il raconté. Dans mon brouillard, je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose. Je me suis levé lentement, j'ai eu du mal à poser ma raquette sans la faire tomber, j'ai été jusqu'à la fenêtre, qui n'était évidemment qu'un simple cadre sans carreaux, et je l'ai ouverte. Elle donnait sur une toile représentant un merveilleux jardin. Le plancher derrière la fenêtre était sale et poussiéreux. J'ai respiré un grand bol d'air pur. Et c'était reparti. J'étais frais comme un gardon. Je ne sentais plus rien, conclut-il. Il est là le miracle du théâtre. Dans cette alchimie inexplicable qui, l'espace d'une représentation, transforme les plus gros mensonges en une indiscutable réalité. Dès l'enfance, j'ai eu le goût du mensonge, du beau mensonge. Depuis toujours, je raconte des histoires. Tous les enfants se créent un univers à l'image de leurs désirs et tous finissent par y renoncer quand ils s'aperçoivent que les autres ne peuvent y trouver place. Certains s'enferment dans la solitude. Moi, je suis devenu comédien, au point d'oublier parfois que j'étais aussi un homme. La réalité, je ne l'aime que dans le trompe-l'œil. Voilà mon malheur et ma joie. Ce sont les mots et les souvenirs du grand François Perrier, qu'il a livré dans ses mémoires parus en 1989 sous un titre magnifique « Profession menteur ». Depuis leur loge, leur caravane ou leur bureau, acteurs de théâtre ou de cinéma, ils sont nombreux à s'être confiés dans le silence de la page sur leur parcours, leur époque, leurs rencontres, leurs réussites, leurs doutes, leurs amours et leurs emmerdes. De Pierre Brasseur à Catherine Deneuve, d'Arletty à François Perrier, Jacques François, ils tournent leur regard amusé, tantôt tendre, tantôt inquiet, mais toujours attentif, vers notre drôle de métier. À quelques jours du 70e Festival de Cannes, je vous propose ce soir de partager avec vous des écrits d'acteurs français qui me sont précieux, qui m'ont ému ou inspiré. Je vous invite à me suivre donc dans cette balade sur le fil du mensonge. Nous traverserons les époques avec pas mal d'anecdotes savoureuses et certainement, c'est promis, quelques vérités. Commençons notre parcours par le récit de la naissance de vocation. Dans leur récit, Pierre Brasseur, François Perrier ou Jacques François, menteurs professionnels exemplaires, remontent comme il se doit à leur enfance et leur premier pas professionnel. Avec le panache qui le caractérise, Pierre Brasseur a livré ses souvenirs dans « Ma vie en vrac », paru en 1972, l'année de sa mort. Né à Paris en 1905, de père inconnu, à 20h30, l'heure d'entrée en scène, comme il le précise d'emblée, le futur Frédéric Lemaître des Enfants du Paradis est élevé par sa mère, comédienne. Alors que la bonne qui s'occupe de lui l'emmène avec elle faire ses courses, voici comme il relate le jour très spécial où lui apparaît sa vocation de comédien. La scène se situe place Jules Geoffrin dans le 18e arrondissement de Paris. Pierre Brasseur a 6 ans. J'étais turbulent, toujours prêt à me sauver par la porte, la fenêtre ou par ma tête. Voilà pourquoi une imbécile de bonne me prenait toujours par la main pour faire des commissions le matin dans le quartier pour que ma mère dorme un peu. Elle me traînait comme un sac ou un parapluie. Un de ces matins-là, j'ai assisté à une des plus surprenantes aventures du siècle, pendant que cette charmante servante m'avait installé à la terrasse du tabac avec un lait. C'était ma place attitrée. Je regardais de tous mes yeux tout ce qui se passait, place Jules Geoffrin, comme un homme libre sortant de prison. Tout pour moi était sensationnel, attrayant, original, inattendu, voluptueux, cruel, méprisable, adorable. Je n'avais pas assez de mes yeux pour regarder, peser le pour et le contre. Je photographiais tout et mon cœur battait aussi vite que le déclic d'un Rolleiflex, appareil de reportage de l'époque. Et seul, dame, on me laissait rarement seul dans une rue, alors j'en profitais. Et je crois que c'est à partir de ce jour-là que j'ai compris que j'allais aimer la vie de la rue, la vie de tout le monde. Et que, tout au fond de moi, j'ai décidé d'être acteur un jour, c'est-à-dire d'imiter les hommes, en faire des bons hommes, prendre leurs tics, emmancher leurs gestes comme un veston, copier leurs attitudes, chaparder leurs regards, leurs grimaces, la tristesse ou la sérénité de leur visage, et foutre tout ça en vrac dans une boîte à maquillage que je pourrais retrouver plus tard, lorsque j'aurai l'occasion de me révéler. À cause de ce qui va suivre, ce matin-là est resté gravé sur le gros cœur de ma petite enfance. Comme si la vie ce jour-là se devait d'être exceptionnelle en tout point. Donc je suis assis à la terrasse du tabac, je bois mon lait et je me sens libre, fort, sur le marchepied de ma vie d'homme et j'ai 6 ans. Une pétarade terrible, des coups de feu sur le trottoir en face, des hommes courent, sortent de la banque, sautent dans une voiture grise qui fonce à toute allure. Hélas, au moment où j'allais me précipiter pour regarder de plus près ce film d'actualité en première vision mondiale, la main ferme et laconique me rattrapa sur le fond de ma culotte. Je l'ai appris en détail pendant plusieurs jours. C'était le premier hold-up de la bande à Bono. Assister à cela à 6 ans, alors que l'on est en train de rêver sur la vie des hommes comme un promeneur bourgeois et observateur, ce n'est pas mal. Ça vous forge très tôt une petite âme de réfractaire. C'est sur les trottoirs du plus huppé 16e arrondissement de Paris que François Perrier se promène, quant à lui, avec Désiré Mestiféry, son ami imaginaire, pendant toute son enfance.
J'étais, étant enfant, effroyablement menteur. Je ne l'étais pas par vice. Je l'étais un petit peu par goût. Parce que j'avais besoin d'affabuler, j'avais besoin de transformer. Mais c'est surtout à ma grand-mère que je dois avoir fait du théâtre, parce que ma grand-mère avait perdu la mémoire. Alors, je pouvais mentir avec elle autant que je voulais. Et c'est avec elle, certainement, que j'ai inventé les mensonges les plus énormes. La pauvre, 5 minutes après, ne s'en rappelait plus, par conséquent, elle ne pouvait pas me trahir. Et comme je passais mes vacances dans l'aube chez elle, je dois certainement à ces mois de vacances, mon idée de transformer la vie et d'être autre chose, c'est-à-dire être un comédien.
J'ignorais à peu près tout de ce que représentait Jouvet. Avant d'écrire au maître, je suis allé voir Knock qui le reprenait périodiquement à l'Athénée.
Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille ?
Dans cette représentation inoubliable, un détail surtout devait me marquer. Sa manière de se laver les mains, de montrer en un geste les travers de ce singulier médecin. Il utilisait exprès un produit qui moussait énormément pour avoir très vite une quantité impressionnante de savon sur les mains. Alors Jouvet se les massait longuement, déplaçait avec soin la boule de mousse, se battait les paumes, recommençait. L'opération était interminable. Et toute la maniaquerie de Knock était là, exprimée sans une parole.
Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette ?
Oh, j'en mange jamais. Oh, mais il me semble bien que si j'en mangeais...
Oui.
Eh ben, effectivement, ça me gratouillerait plus.
Le soir même, je lui écrivais. Je ne garde aucun souvenir de ma lettre. Probablement était-elle anodine. J'imagine aisément le tissu de poncif que peut aligner un gamin dont le rêve est de devenir comédien. Jouvet m'a répondu, en me demandant de passer le voir. Sur le moment, je ne pris pas conscience du privilège qui m'était octroyé. J'étais un peu ému, mais trouvais presque normal que l'on me répondît aussi facilement. « Alors comme ça, mon petit, tu veux faire du théâtre ?» me dit-il avec sa diction théâtrale. Elle résonne encore en moi, cette phrase prononcée en juillet 1935, avec cette intonation si bizarre, cette diction théâtrale que l'on s'étonnait d'entendre encore lorsqu'il était sorti de scène, que Jouvet définissait lui-même, une bouteille de champagne qu'on débouche. Avec Jouvet, on ne savait plus où était l'acteur et où était l'individu. Ainsi, dans ce grand corps un peu mécanique qui arpentait devant moi à son petit bureau de l'Athénée, je ne crois pas avoir vu Louis Jouvet, mais le docteur Knock. La représentation continuait. Et j'avais juste l'impression délicieuse qu'elle m'était exclusivement destinée. Le petit François Pilu, avec son derrière vissé sur la chaise qu'on lui avait désignée, avec sa voix légèrement tremblotante. « Oui, monsieur, je vais au lycée. » Et sa bouille arrondie de gamin, pas encore dégrossie. J'avais vraiment l'air d'avoir 15 ans, et pas un jour de plus. Jouvet a attaqué d'entrée. « Le théâtre, c'est pas ce que tu crois. » Il avait bien compris que je venais au théâtre pour les plus mauvaises et les plus extérieures des raisons. Le goût de se montrer, de faire l'histrion. Le théâtre, tu sais, c'est un métier qu'il faut apprendre, comme les autres. Et il faut l'apprendre toute sa vie. Tu as un instrument, c'est ta parole. Faut le faire travailler. Et il m'a conseillé d'aller voir René Simon, un comédien dont le cours était fort prisé. Puis tu reviendras me voir dans 2 ans. Peut-être qu'on te présentera au conservatoire. J'étais sur un nuage, sous le charme de cette voix magique qui me prédisait un avenir fabuleux. De la même génération que François Perrier, Jacques François n'aurait pas partagé l'avis de Jouvet quant à l'apprentissage du métier d'acteur.
Comment trouves-tu mon petit smoking ? Pas que je suis beau. Alors comment me trouves-tu ?
Très beau, comme d'habitude.
Tiens, moi qui me trouvais spécialement superbe.
Il suivra lui aussi les cours de René Simon, avant de faire un bref passage au conservatoire, dont il claquera la porte en moins de 3 mois. Aujourd'hui, écrit-il dans son livre autobiographique « Rappel », je souris quand un acteur ou une actrice affirme que tel professeur lui a tout appris. On n'apprend que 2 choses à un futur acteur, la diction et ses propres limites. Mais la présence, l'aura, le mystère, la faculté de faire rire, d'émouvoir ou de faire sangloter ne sont pas enseignables. Louis Salou disait 2 répliques dans un Shakespeare chez Georges et Loumina Pitoyev. Les gens ignorant la pièce imaginaient que ce garde allait d'un instant à l'autre devenir le héros de l'histoire. Il a 72 ans lorsqu'il écrit ses mémoires. Au fil d'un récit caustique et entraînant, Jacques François nous fait part de son goût immodéré pour les rencontres avec des personnages illustres, parmi lesquels Jean Cocteau. Jacques François a 20 ans lorsqu'il le rencontre. Assez isolé dans sa vie jusque-là, Jacques François a grandi auprès de sa mère, d'origine américaine, et de son beau-père, chirurgien. Mon envie de connaître Cocteau était immense. Je décidai de me présenter moi-même. Je lui écrivis une lettre pour lui exprimer mon admiration et mon désir de l'approcher. À ma surprise enchantée, très peu de temps après, je reçus de lui une aimable invitation à venir les chercher, Jean Marais et lui, après la répétition de L'Aigle à deux têtes au théâtre Héberto pour dîner avec eux dans un restaurant proche du théâtre. J'y allais très ému et très intimidé. Je me retrouvais finalement en tête à tête avec Cocteau. La conquête fut réciproque. Et je fus ensuite convié à venir, selon mon désir, déjeuner rue Montpensier, où il habitait avec Jean Marais. 1 heure avec eux valait 1 siècle. Cette amitié avec Jean Cocteau et l'émerveillement qu'elle provoquait en moi n'allaient pas sans créer quelques incidents au sein de ma famille. J'y parlais sans aucune retenue de nos rapports, puisque rien ne pouvait à mes yeux leur donner le moindre aspect équivoque. Jean Cocteau fut aussitôt rendu responsable de mon éventuelle perdition. Je m'en ouvris à lui et il me demanda simplement de l'accompagner à la répétition générale du Misanthrope, jouée par Jean-Louis Barrault et Alice Cosséat, et de bien vouloir offrir 2 places pour le même soir à ma mère. Il me demanda de le présenter à elle pendant l'entracte. Le numéro que fit Jean Cocteau à ma mère, sur mon talent, mes succès auprès des jeunes filles et des jeunes femmes, son dégoût de tout ce qui pouvait être en quoi que ce soit efféminé, fut une telle réussite que pendant 1 mois, cette question me fut posée. « Il me semble qu'il y a bien longtemps que tu n'as pas vu notre ami Jean Cocteau. Pourquoi ?» Mon beau-père n'eut qu'à se taire, et tout rentra dans un ordre qu'il n'aurait jamais dû quitter.
Dans le Paris des Républiques, l'accordéon nostalgique a semé bien des musiques dont il reste des échos. Dans nos cœurs, il y a des rengaines dont les rimes incertaines se prenaient pour du Verlaine, du Bruant ou du Carco. Le chanteur des rues qui brame à votre bon cœur, messieurs, dames, Paris sera toujours Paname et tout ça ne vaut pas l'amour. Lorsque les télés s'allument, pauvre fantôme des brumes, s'en revient succès posthume, nous hanter au fond des cours.
Et allez donc, envoie la ritournelle
de la chanson gnangnang et chauvine et vieux jeu.
Réveille un peu le piano à bretelles,
à chaque fois qu'on l'entend, on a les larmes aux yeux.
Paris, c'est plusieurs villages, et chacun a son visage, le 16e a son langage, et la bastoche a le sien.
Onicos en argomuche, et Pantin se dit pantruche. Mais ni le montant, mais ni le muche, et le temps n'y change rien.
Moi j'aime bien la place des fêtes, et les choses étant bien faites. Pas loin du tabac buvette, y a l'église et la mairie.
Moi je rigole quand je pense à ceux qui partent en vacances, en Bretagne ou en Provence.
Rien ne vaut l'heure de Paris. Et allez donc, en voilà ritournelle
de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu.
Réveille un peu le piano à bretelles.
On se croirait au printemps, le ciel est toujours bleu.
On sait bien de par le monde que Paris c'est une blonde, et les visiteurs abondent, il en vient de tout pays.
La tour Eiffel les étonne, le musée Grévin les passionne, et la Seine enfin leur donne l'attrait de ses quais fleuris.
Dans la lumière irisée, ils s'en vont l'âme grisée, le long des Champs-Élysées, et comprennent que Paris
restera quoi qu'il advienne la capitale souveraine, la seule, l'unique et la reine, par le cœur et par l'esprit. Et allez donc, en voilà ritournelle de la chanson gnagnon et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelles, dans le genre exaltant on ne pourrait pas faire mieux.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
T'es pas dégoûté, toi? On t'aurait proposé un rôle dans Le Juif Sus, t'aurais accepté, hein?
Parfaitement, monsieur, seulement il n'y avait pas de rôle pour une Française. Excusez-moi, Marion, je suis vraiment désolée, j'en ai...
Oui, ne presse pas, ça fait une heure qu'on t'attend pour répéter. Tu sais qu'on n'est pas à ta disposition, ma chérie. Qu'est-ce que t'as comme excuse aujourd'hui? C'est ton réveil qui a pas sonné?
Non, je faisais une synchro.
Mais t'as pas accepté tous les boulots qu'on te propose. Tu fais du théâtre, alors les synchros, tu les laisses aux copines qui ont besoin de travailler.
Mais moi, je laisse rien à personne. Et je suis bien décidée à accepter tout ce qu'on me propose. Je fais des émissions de radio le matin, à l'heure du déjeuner, je fais des doublages. Et le soir, je frime à la Comédie Française. Je veux réussir. Et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen. Il faut tout accepter. Se faire voir de plein de gens et rencontrer chaque jour des gens nouveaux.
Ouvrons à présent un chapitre sur la vie des acteurs pendant l'occupation. La guerre a en effet une place importante dans les écrits des acteurs de cette génération. Restons un instant en compagnie de nos saltimbanques, Jacques François, Jean Cocteau et Jean Marais, avec cette anecdote assez savoureuse, toujours relatée dans Rappel. Pendant la guerre, c'était en février 1941, Jean Cocteau et Jean Marais avaient monté pour des matinées classiques et, je crois, une soirée hebdomadaire, Britannicus de Racine. Le spectacle était présenté devant le rideau par Jean Cocteau lui-même et pendant 5 actes, Gabriel Dorzia dans Agrippine, Jean Marais dans Néron et Serge Reggiani dans Britannicus nous coupaient le souffle. Un après-midi, après la représentation, j'étais allé chercher Jean Marais et Serge Reggiani. Pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la mode capillaire des années 50 avant Jésus-Christ, Jean et Serge s'étaient laissé pousser les cheveux très bas sur la nuque et les épaules. Jean Marais avait été jusqu'à teindre les siens au henné. Ceux de Serge étaient noirs et bouclés. Ai-je besoin de dire qu'ils ne passaient pas inaperçus quand ils se dirigeaient vers la station de métro 4 septembre? En sortant du théâtre, un homme sévère et rébarbatif nous croisa et sans s'arrêter dit à haute voix à sa compagne « Pas étonnant qu'on en soit où on en est. Tu as vu ces malheureuses Zazou et leur coiffure? Quelle misère !» À quoi Serge Reggiani lui répondit également sans s'arrêter avec la même sévérité « C'est pour notre métier, monsieur. » Et l'autre ajouta en poursuivant sa route « Drôle de métier, monsieur !» Continuons sous l'occupation à Paris, vécue par François Perrier alors qu'il joue le premier rôle dans une pièce intitulée « J3 ». Merveilleux théâtre. Dans la France occupée, les théâtres rouvraient progressivement leurs portes. En ces temps troublés, ils constituaient la plus agréable des sinécures. Ils n'ont d'ailleurs jamais été aussi fréquentés que pendant l'occupation. Une nécessité absolue d'oublier le quotidien d'abord, c'était encore là qu'on voyait le moins d'Allemands. L'atmosphère des soirées théâtrales de l'occupation était toute particulière. Je ne saurais l'évoquer aussi bien que François Truffaut dans Le Dernier Métro. Le couvre-feu a entré en vigueur autour de minuit. Après la fin du spectacle, c'était la ruée. Les comédiens et les auteurs de théâtre bénéficient toutefois d'un privilège assez insigne. Pendant les périodes de représentation, les Allemands accordaient aux travailleurs un Ausweis nocturne qui nous évitait la bousculade dans le métro. Nous en profitions pour nous retrouver après le spectacle et pour nous amuser jusque tard dans la nuit. Nous en avons, je dois dire, passé des nuits heureuses. J'ai connu à cette époque ma première millième. J'entends par là la première fois où j'ai joué une pièce 1000 fois. Plus de 3 ans. La pièce s'appelait J3. Un titre qui ne dira rien aux jeunes générations puisqu'il faisait référence aux cartes de rationnement. V pour les vieux, J1, J2 pour les jeunes enfants, J3 pour les 15-20 ans. La pièce n'était certes pas un chef-d'œuvre, mais traitait avec dérision de nos difficultés quotidiennes. Et le public s'y amusait, même quand, interrompu par les alertes aériennes, nous devions, public et comédiens, nous précipiter dans les abris. De plus en plus souvent, le hurlement des sirènes nous coupait en plein milieu d'une scène ou d'un monologue. Couvre-feu oblige, il nous fallait alors raccourcir la pièce. À tel point que dans les années 44-45, il nous arrivait de jouer le premier acte, alerte, tout le monde à la cave une demi-heure, et là, au milieu des spectateurs, nous nous transformions en récitant et racontions le deuxième acte. L'alerte passée, nous remontions, les spectateurs regagnaient leur siège, nous commencions à jouer le troisième acte. Nouvelle alerte, tous aux abris, là nous racontions au public la fin du troisième acte, l'alerte finie, nous remontions en courant, et en quatrième vitesse, nous jouions le dernier acte pour finir dans les temps. Sur 2h30 de scène normalement prévue, il restait à peine 1 heure. Le public était très compréhensif et je n'ai jamais entendu quiconque élever la moindre protestation.
Ah, que j'ai souffert en jouant votre pièce.
Vous avez souffert?
Ah oui, j'ai souffert. J'ai souffert pour vous et pour moi du temps que nous perdions. Or, le rideau tombé, qu'en est-il resté? Rien.
Il en va de même pour la plupart des pièces.
Eh oui, c'est navrant.
Comment voulez-vous rendre service au public?
Comment?
En lui dépeignant les misères de la vie.
Mais non, pas du tout.
Alors?
En lui faisant aimer les belles choses qu'il méprise parce qu'il les ignore. Il ne suffit pas de lui montrer ce qui est laid. Il faut lui montrer ce qui est beau pour qu'il y prenne goût. Savez-vous ce que c'est que le public? C'est votre pays. Y aviez-vous jamais pensé? Évidemment, c'est déjà beau de pouvoir se dire « J'amuse mon pays, je le distrais, je l'émeux, je le fais rire. » Mais dites-moi, ce ne serait pas beau de pouvoir se dire un jour « Je lui ai fait du bien. »
Remontons le cours du temps grâce aux archives de la Comédie-Française avec les souvenirs de Béatrice Dussane concernant le théâtre aux armées pendant la Première Guerre mondiale. Destiné à produire des spectacles au plus près du front pour divertir les soldats, le théâtre aux armées a été remis en place par l'administrateur de la Comédie-Française de l'époque, Émile Fabre. Dans le texte suivant, elle rapporte dans un souvenir ébloui les circonstances de la première représentation donnée dans le petit village du Croc, au nord de Beauvais, le 9 février 1916. Une représentation offerte, je cite, aux troupes coloniales par la Comédie-Française. Le crépuscule finissait quand nous arrivâmes à notre théâtre, une grande ferme aux larges porches, à la cour vaste, encadrée d'énormes granges à fourrage. C'est dans l'une de ces granges transformées en salle de spectacle par l'ingéniosité active d'un peintre soldat que la Comédie-Française, retrouvant ainsi le cadre de ses débuts, joua comme la compagnie du sieur Poquelin quelques-unes de ses joyeuses pièces pour le bon peuple de France. Le vieux fermier, sa femme et ses fils nous reçurent chez eux. C'est dans leur salle basse que fut notre loge, combien pittoresque, combien différente des boudoirs où l'on nous imagine d'ordinaire. La nuit était venue. Dans la cour, les silhouettes des soldats, pressés les uns contre les autres, silencieux, profilaient çà et là leurs ombres casquées sur les lueurs éblouissantes des phares d'automobiles. Au-dessus de nous, un grand morceau de ciel nocturne découpé par le quadrilège des toits s'animait du clignement des 2 étoiles bleues sous un croissant de lune. Nous rejoignîmes notre poste, c'est-à-dire la scène, lumineuse dans son cadre de guirlandes et de drapeaux comme une belle image. Aucun des artistes qui étaient là n'oubliera jamais ce qu'ils virent. À ce moment, par le coin soulevé du rideau d'Indienne. Cette robuste construction aux charpentes apparentes, à peine éclairée par quelques petites lampes électriques suspendues haut, serrées dans cette demi-obscurité, tous ces hommes, dont les uniformes faisaient comme une grande nappe d'ombre bleue, mouvante, chaude. Nous devinions tous ces visages inconnus et chers. Nous entendions des murmures et des rires. Ça et là, un regard ardent attirait le nôtre. Nous sentions que ces hommes qui avaient fait tant de grandes choses attendaient de nous la joie et le réconfort d'une heure. Aller aux armées, c'est ainsi venir apporter de la joie partout où on nous appelle, partout où le soldat prend du repos. C'est faire une liaison, une liaison souriante et affectueuse entre cet arrière décrié et cet avant mystérieux. Ceci n'est pas une simple phrase. Nous avons tous senti, quand à la fin de nos concerts, la Marseillaise passait, portée par le souffle de milliers de poitrines, nous avons tous senti, au profond de nos âmes, les liens vivants qui nous attachaient à ces hommes inconnus. Dans un petit guide destiné aux membres de la troupe de la Comédie-Française, toujours cette merveilleuse Béatrice Dussane ajoute la note suivante. « Quand vous rentrerez dans le Paris de toutes les curiosités, ne vous redressez pas en proclamant « Nous avons eu un succès fou ». Il vous sera plus glorieux de dire simplement « Ils ont été contents ». Voici maintenant quelques citations et anecdotes sur le métier d'acteur. À une apprentie comédienne en larmes, Louis Jouvet demandait « Mais enfin, qu'as-tu donc ?»« Maître, c'est l'émotion, » répondit l'apprentie. « L'émotion ? L'émotion ? Bon Dieu, c'est le public qui doit pleurer, surtout pas toi. » Arletty. « Je ne suis pas de ces comédiens qui pleurent. L'émotion doit venir dans le verbe, pas dans les larmes. Il faut aussi se dépouiller le plus possible. C'est le dépouillement qui fait la valeur d'un acteur. Le jeu est une science intime, particulière. Je crois que ça vient de l'intelligence et d'un sens artistique, auditif, musical. » Bernard Blier a un ami qui lui fait remarquer qu'il joue toujours au cinéma les rôles de Marie Cocu. « C'est tout de même pas ma faute si c'est avec ma tronche de faux cul que je nourris mes mômes. » »«
La ferme. Sur votre demande, j'ai engagé votre petite amie. » Et voilà toute votre reconnaissance.
Quoi, quelle petite amie ?
Cette sale petite poule à qui vous avez donné un nom de cigare.
Ça s'appelle Caroma, pas Corona. Et c'est pour ma petite amie. J'ai vu qu'une seule fois dans ma vie.
Ça veut rien dire. Je l'ai engagée au risque de couler mon film parce que vous m'avez supplié à genoux. Et maintenant, le metteur en scène me dit qu'elle est incapable de prononcer un mot et qu'en plus, elle boite. C'est bien pour une danseuse.
Poursuivons le petit lexique d'Arletty. Paru en 1991, peu avant sa mort, à la recherche de sa conception du métier d'acteur. Acteur, deux points, voire cinglé. Cinglé, deux points. Aujourd'hui, ça manque de cinglés dans notre métier. Les derniers, c'était Fréhel, Jules Berry, Le Vigan, et Maud Lotti, dont les dons comiques étaient extraordinaires et qui a été la reine des boulevards. Oui, ça manque de fous. Or, notre métier s'est fait de folie. De tout temps, ce Brécourt au XVIIe siècle, quel acteur insensé. Il faisait des dettes, il allait en tôle et l'en tirait le soir pour jouer avec des gendarmes en coulisses, puis on le remettait en prison. Et Molière, le plus grand, qui se lança dans l'aventure sur les routes pendant 20 ans avant d'être célèbre. C'était comme ça autrefois. Comédienne, deux points. Si l'on me demande qui je réponds je suis comédienne. C'est plus joli qu'actrice. Dans actrice, il y a acte. Ce n'est pas poétique du tout. Rôle, deux points. Au cinéma, faut pouvoir rire, pleurer, parler au coup de sifflet. Les prises de vue au studio ont quelque chose de mouvementé, comme une partie de rugby. Vous figurez-vous ce que cela peut être de tourner dans le brouhaha d'un studio, les nerfs tendus ? On cherche, on veut trouver quelque chose de drôle. Croyez-moi, avoir de la fantaisie à l'écran, c'est bien plus difficile qu'à la scène. Au théâtre, on joue. Au cinéma, c'est jouer. Vous semblez être dans une cage de verre, celle du magasin de bric-à-brac. Les premiers temps, malgré toute votre ardeur à vouloir être drôle, vous cherchez surtout une porte salvatrice qui vous permettrait de fuir. Pendant le tournage, c'est le réveil à 7h du matin, la route dans la brume. Au studio, c'est la grande volière où, disait un monsieur fort bien et peut-être très empressé de plaire, les rêves prennent leur essor. Voici un autre épisode de la vie de l'actrice relaté par Jean-Claude Brialy. Je me souviens qu'un jour, je déjeunais chez elle avec un ami qui, au cours du repas, lui demanda un peu maladroitement « Est-ce que vous pouvez me faire plaisir et me redire atmosphère, atmosphère ?» Le visage d'Arletty devint plus grave et elle lui répondit « Je peux pas, il appartient au public maintenant. Il le dit mieux que moi. » Elle n'avait plus prononcé ces mots depuis la scène mythique d'Hôtel du Nord. Cette réplique fabuleuse n'était pas dans le roman d'Eugène Dabi, c'est Henri Janson, le dialoguiste, qui l'écrivit pour elle. Devant la surprise de Carné, qui n'en voyait pas l'intérêt, Janson expliqua « Je l'ai inventé spécialement pour Arletty, parce qu'il y a des mots qu'elle rend magiques, tu verras. » Elle me racontait toutes les anecdotes de tournage. À propos de Jean-Louis Barrault, qui était beaucoup plus petit qu'elle et que Carnet dut faire monter sur une caisse pour le fameux baiser des enfants du paradis, elle me raconta le rire dans la gorge. Au moment du baiser, il monta sur sa caisse et je dis ma réplique. Paris est toujours petit pour tous ceux qui s'aiment. Tu imagines la rigolade ? Elle souhaitait à toutes les actrices d'avoir un Prévert dans leur vie.
Je suis entrée par curiosité dans ce métier. Par curiosité pour y passer.
Vous y êtes restée ensuite par curiosité ?
J'y suis restée, après, très vite par amour. Parce que c'est un merveilleux métier de femme. Plus encore que pour un homme.
Pourquoi ?
Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses, à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans.
Et c'est beau le mensonge ?
Quoi ?
Et c'est beau le mensonge ?
C'est féminin.
Vous en avez abusé du mensonge ?
Pas du tout.
Michel Audiard, dialoguiste.
Dans mes films, il y a plutôt des Français moyens. On l'a d'ailleurs des fois reproché de faire des films de Français moyens, mais moi je méprise pas du tout le Français moyen. Je crois que je suis un Français moyen.
Autre merveilleux dialoguiste, très proche des comédiens, Michel Audiard. Donnons-lui un peu la parole. Les dialoguistes qui n'écrivent pas pour les acteurs sont des imbéciles. Ils ne connaissent pas leur métier, un point c'est tout. Un dialoguiste qui n'exige pas de connaître les interprètes des cinq principaux rôles du film est un monsieur qui ne connaît pas son métier. En tant que réalisateur, j'ai limité tout contact avec les comédiens. Ce sont des êtres inquiets, toujours en quête de conseils. La meilleure façon de ne pas leur en donner de mauvais est de ne pas leur adresser la parole. Les meilleurs dialogues qu'on puisse écrire, c'est en les plaçant en imagination directement dans la bouche des comédiens qui auront à les dire. Souvent, on pense davantage aux acteurs qu'aux personnages, car c'est eux, en définitive, qui seront sur la toile. Eux que le public verra et entendra. Si en dernière minute Gabin devait être remplacé par Freinet, qui n'est pas un moins bon comédien, le dialogue sera à refaire entièrement. Pour avoir souvent travaillé avec Gabin, je suis en mesure d'affirmer que c'est le plus magnifique interprète qu'un scénariste puisse rêver. C'est une machine à dire du dialogue. Quand on passe de cet acteur à d'autres, que je préfère ne pas nommer, on tombe de haut.
Je te préviens que si jamais un jour tu me ramènes un gosse de ce mec-là, je le fais empailler, je le mets sous globe. Je veux que les Martiens voient ça, hein.
Le grand défaut des comédiens, un égoïsme plus démesuré encore que chez les autres humains. Pourtant, ce travers est de plus en plus dominant. Voilà pour leur personnalité. Quant à leur principal défaut professionnel, à mes yeux, c'est leur manie de ne penser dans un scénario qu'à leur seul personnage, tout en prétendant bien entendu que l'histoire doit passer avant tout. Ceci dit, j'ajoute que, mis à part ces deux réserves, j'aime bien les comédiens, car ce sont de merveilleux personnages à une époque où les gens sont de moins en moins drôles. Ils sont particulièrement attachants à cause de leurs inquiétudes et ils ont mille autres qualités valables. Pour proposer un sujet, moi maintenant, je passe par les acteurs, c'est beaucoup plus simple. Si un sujet plaît à Belmondo, qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'il ne plaise pas au producteur ? Il le fera de toute façon. Les vrais patrons, ce sont les grands acteurs, enfin les vedettes. En travaillant avec une star, vous avez l'énorme avantage de pouvoir dire merde à tout le monde.
Qu'est-ce que c'est ?
J'aurais voulu vous parler.
Entrez. Bonjour.
C'est vous qui vous occupez de...
Je suis Madame Anaïs.
J'aurais voulu me renseigner, savoir si...
N'ayez pas peur. Vous êtes ici chez vous. Je suis toute prête à vous aider. Asseyez-vous.
Puisqu'il s'agit de stars, citons maintenant Catherine Deneuve. En 2004 ont été publiés ses carnets de tournage aux éditions Stock. 6 carnets de notes précises dans la solitude des chambres d'hôtel lors des tournages à l'étranger entre 1968 et 1999. On la découvre au travail, dans ses doutes, ses colères et ses angoisses. Ça correspond à un moment de solitude par rapport au film que je suis en train de tourner. Ces carnets sont toujours venus compenser soit une forme de tristesse, soit une forme de manque de quelque chose, de manque affectif. Indochine. C'est un film qui m'a vraiment emporté. Le côté rigide de Régis Varnier, qui donne un cadre. C'est à la fois un film, une aventure, un voyage. C'est un grand emportement, un grand rôle, un grand sujet, un grand pays, de tout petits hommes, un très grand peuple. J'ai été bouleversé par les Vietnamiens. Très. Je n'avais pas imaginé que ça me saisirait à ce point. Avec Régis, c'était une rencontre. C'est un sujet qu'il a voulu écrire pour moi. Je l'ai connu quand il était assistant de Francis Giraud sur Le Bon Plaisir. Et c'est vrai que ça a été une aventure très exaltante. Un gros projet, un grand film, tout quoi. Régis fait un peu comme Truffaut. Il organise des lectures. C'est le principe de répétition que je préfère, la lecture seule avec le metteur en scène. Éventuellement, après, on peut lire tous ensemble, mais si on est plusieurs à lire, l'intimité ne se crée pas. Et on ne peut pas s'arrêter sur certaines scènes. On fait juste un tour de piste et hop, on s'en va. Au théâtre, c'est sûrement différent. Mais au cinéma, je trouve que ces lectures ne servent pas à grand-chose. J'avais donc fait une lecture seule avec Régis et Vincent Pérez aussi, je pense. Il avait un rôle difficile. Il était sous le regard de Régis plus que moi. Ça a été un tournage vraiment formidable. Plus qu'un tournage, une aventure. Et en plus, 4 mois de tournage, c'est long. Ça marque une étape. Ça bouleverse une vie. Sur Garel, le vent de la nuit. Il avait décidé de ne faire qu'une seule prise sur ce film, sauf pépin technique. Il a une théorie là-dessus. Les acteurs sont comme des piles qui se déchargent dès qu'on commence à tourner. Moi, pendant les tournages, je dis que je dors. Quand on me demande « qu'est-ce que vous faites pendant les tournages en attendant ?», je réponds « je dors, je me recharge ». Je suis une actrice pour Garel, vous voyez. Il a l'air très sûr de ce qu'il fait tout en laissant beaucoup de place à ce qui peut arriver. Voilà ce qu'il me disait. Ne pensez pas à jouer. Soyez dans la pensée des personnages, soyez simple. Les pensées, ça suffit. Si vous pensez, vous êtes juste. Ça a l'air très simple, mais pour arriver à dire des choses aussi simples aux actrices, il faut vraiment avoir fait un certain tour des choses. Si vous pensez, vous êtes juste. Être dans la pensée du personnage. Non, c'est pas si simple. Parce que ça veut dire qu'il faut pouvoir faire abstraction de ce qui se passe autour de soi, des contraintes techniques, de l'équipe. C'est difficile d'avoir l'impression d'être un personnage qui est un autre. Disons qui est vraiment un autre. En général, on interprète quelque chose à travers sa propre expérience.
Vous êtes gentille et fraîche. C'est le genre qui plaît ici. Oh, je sais bien qu'au début, c'était un peu difficile, mais qui n'a pas eu besoin d'argent un jour ou l'autre. Ce sera moitié pour vous, moitié pour moi. J'ai des frais. Je parais que c'est la première fois que vous travaillez. Bon, ça n'est pas bien terrible, vous savez. Quand voudriez-vous commencer?
Je ne sais pas.
Aujourd'hui?
Oui, peut-être. Ce serait seulement l'après-midi. À 5 heures, il faut que je m'en aille. Il faut, absolument.
2 à 5, c'est un bon moment. Seulement, il me faudra de l'exactitude, sans quoi nous nous fâcherions. À 5 heures, vous serez libre, je vous le promets.
Sur Buñuel et sur sa sœur, Françoise d'Orléac. Belle de jour, ça ne s'était pas si bien passé que ça. Et retravailler ensemble, pour moi, c'était très important. Je trouvais le scénario de Tristana absolument magnifique, mais j'avais de l'appréhension parce que j'étais dans le souvenir de ces moments de tension que j'avais vécu sur Belle de jour. Buñuel était très protégé par les producteurs, on ne parlait pas énormément. Et moi, je traversais un moment difficile dans ma vie personnelle. J'étais fragile. Ce n'était pas si facile que ça. J'étais très exposé dans tous les sens du terme. Physiquement, et ça j'en ai souffert. J'avais l'impression que j'étais plus exposé qu'il n'avait prévu. Il y a eu des moments où j'ai eu l'impression d'être simplement utilisé. J'étais assez malheureuse. Et là, ma sœur a été très importante. Elle m'a beaucoup soutenue moralement pendant le tournage. Elle a été présente et très forte. Ce n'est qu'après que je me suis rendu compte à quel point Françoise... Vous savez, c'est très difficile de parler de problèmes d'actrice. Sauf si on est ami intime avec une actrice, ce qui n'est pas mon cas. Et je me suis rendu compte à quel point Françoise me manquait. À quel point ça me manquait de ne plus pouvoir partager ça. Que seule l'intimité personnelle et le fait de faire la même chose permettent. Je retrouve ça parfois avec ma fille aujourd'hui. Parce qu'on a une relation très intime et qu'en même temps elle est actrice. Buñuel, lui, je ne pense pas qu'il ait gardé le même souvenir que moi. Sinon, il ne m'aurait pas proposé de faire Tristana. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a une vision des acteurs assez réductrice. Je pense qu'il s'est dit que si j'étais le personnage, il devait me confier le rôle, point. Je crois qu'il pensait que les acteurs c'est important, mais que ce n'est pas l'essentiel. D'ailleurs, il parlait peu aux acteurs. Tristana, c'est l'un des films que je préfère. C'était quand même un tournage formidable, d'ailleurs. Les carnets sont aussi les confidents des moments difficiles. Personnellement, je préfère en tant qu'actrice Tristana à Belle de jour. C'est un film extrêmement noir. Le carnet était une sorte de soutien, et puis à un certain moment, vouloir fixer les choses. Il y a tellement de choses dont on ne se souvient plus après. J'admire les gens qui tiennent un journal au quotidien. Mais en même temps, un journal a des pouvoirs quand on le relit, quand on le retrouve. C'est incroyable ce que ça ramène comme image, comme souvenir d'une précision inouïe pour celui qui l'a écrit.
Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures. Toi, jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Ils m'implorent et ils m'adorent, mais pourtant moi je les ignore, tu le sais. Homme, tu n'es qu'un homme. Comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais. Ils inventent des histoires que je fais semblant de croire, toi, jamais. Ils me jurent fidélité jusqu'au bout de l'éternité, toi, jamais. Quand ils me parlent d'amour, ils ont trop besoin de discours, toi jamais. Je me fous de leur fortune, qu'ils laissent là où elle est la lune, sans regret. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne. Et toi, jamais. Tu as tous les défauts que j'aime et des qualités bien cachées.
tu es un homme et moi je t'aime. Et ça ne peut pas s'expliquer, car un homme, tu n'es qu'un homme comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais.
Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi.
C'est drôle, on dirait que vous avez couru.
Oui, après vous.
Après moi? Et vous venez à ma rencontre?
Mais justement, je vous ai vu tout à l'heure. Alors vous comprenez, le choc, l'émotion, le temps de me décider. Et vous étiez déjà loin. Alors?
Alors?
Alors comme j'ai horreur de suivre une femme, j'ai couru pour vous dépasser et précisément venir à votre rencontre. Et maintenant, je ne vous quitte plus. Où allons-nous?
C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien.
Mais c'est peut-être le même.
Non.
Oh, pourquoi?
Parce que j'ai rendez-vous.
Au rendez-vous? Destin tragique. Voilà seulement 2 minutes que nous vivons ensemble et vous voulez déjà me quitter.
Clôturons le cycle ouvert en début d'émission avec notre trio d'acteurs Pierre Brasseur, François Perrier et Jacques François. Quand la vie les rattrape, voici quelques pépites dont, me semble-t-il, seuls les acteurs sont capables. Alors qu'il est hospitalisé à Montréal pour une intervention très lourde pendant une tournée, Pierre Brasseur, récupérant tout juste, ne peut s'empêcher de s'observer en tant qu'acteur. Il nous livre dans ce passage savoureux sa conception d'un acteur de composition. Ils étaient 15 autour de mon lit et me regardaient en me détaillant comme un chef-d'œuvre du Titien. J'aurais été si fier si je n'avais pas eu tellement envie de pisser. Ça les a tellement fait rigoler de m'aider à me trimballer avec mes tuyaux et mes bocaux que j'ai eu l'impression que cela remplaçait pour eux tous les remerciements du plus profond de mon cœur et de la raison. J'étais leur enfant, leur homme rescapé, leur création. Je me suis regardé dans une glace. Cette salope ne m'a renvoyé que l'image d'un cadavre inconnu. C'était moi. Et je songeais en me regardant à tous les rôles nouveaux que je pourrais jouer avec cette gueule-là. Tout le monde me disait « Vous êtes l'ombre de vous-même ». Et je pensais « Être son ombre, ce n'est pas merveilleux ». Mais je sentais que personne n'aurait été d'accord. Moi, je me plaisais bien. Cette image décharnée était ma véritable personnalité, mon identité intérieure, dépassant et crevant cette image imbécile de joufflu que j'avais imposée pendant des années. Bon, il fallait donc que je mange et me goinfre afin de redevenir ce gros pâteau barbu que je devais représenter pour avoir l'air d'un homme de théâtre. J'avais une idée secrète sur ça. Faire semblant et devenir un compromis, c'est-à-dire paraître en bonne santé, mais avec un peu de poète maudit incrusté sur ma face, mon œil mort et autre part. À moi de me débrouiller tout en redevenant solide. Ma voix était toujours la même, profonde, ironique et intransigeante. Je m'en servais différemment, voilà tout. Voilà ce que c'est qu'un véritable acteur de composition.
Ce déni, je ne sais plus comment, en sait moins sur le théâtre que mon gros orteil. Je l'ai observé, il ne sait ni marcher, ni s'asseoir, ni prononcer une phrase de façon intelligible.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le voir jouer me fait mal au sein. J'ai toujours dit que son succès était immérité.
Mais vous êtes son agent. Vous avez obtenu le rôle principal de Fils du Destin. Bon Dieu, Higgins, c'est mon rôle. Mon interprétation d'Eric Periwinkle est devenue légendaire. C'est mon Periwinkle qui a fait la fortune des studios Empire.
Il y a 20 ans, vous pouvez plus jouer les jeunes premiers.
Mais voyons, j'ai à peine 30 ans.
Vous en avez au moins 50.
C'est faux! Oh, que c'est faux!
À la suite d'un accident de voiture, Madeleine, la femme de Jacques François, est très longuement hospitalisée à Rouen. L'acteur fait alors les trajets quotidiens à Rouen-Paris où il joue. Il nous livre ici une rencontre faite dans le wagon-restaurant du train. Assis à une table de quatre, j'avais remarqué qu'un des trois autres voyageurs avait parfaitement repéré qui j'étais. Quand les deux autres furent partis, il me demanda si je l'autorisais à lui poser une question indiscrète. Sur ma réponse affirmative, il me dit très exactement ceci. « Monsieur, je vous ai vu hier soir dans le Canard à l'Orange. Depuis des années, personne ne m'a autant fait rire que vous dans cette pièce. Personne non plus depuis bien longtemps ne m'a paru plus triste et plus soucieux que vous pendant ce déjeuner. Pouvez-vous me donner la raison de ce phénomène ?» Je la lui donnai et me rendis compte, grâce à lui, que pendant un peu plus de 2 heures chaque jour, je revivais normalement. Grâce à l'exercice de ma profession de baladin.
«
Retrouvons celui avec qui nous avons commencé, François Perrier. Alors que sa première femme, Jacqueline Porel, l'a quitté après 7 ans de vie commune et 3 enfants, il est désespéré, isolé et désemparé dans leur immense maison de Neuilly qu'elle a entièrement vidée. Jusqu'à ce qu'un soir, son ami Louis Jouvet vienne lui rendre visite. En entrant, il a regardé autour de lui ce décor désertique peu conventionnel et m'a jeté « Eh bien, de quoi tu te plains, t'as de la place. » Jouvet n'était pas seulement le personnage austère qu'il s'appliquait à montrer. Sous la carapace, l'homme avait vécu des passions dont les traces étaient parfois visibles. Après le dîner, nous sommes demeurés longtemps à parler dans le salon vide qui ouvrait sur un petit jardin. Fatigué, Monique Mélinan, qui l'accompagnait, finit par aller se coucher. Jouvet resta. Tout à coup, il me dit « Quelle heure est-il ? » « Mais dis donc, il doit faire jour. » Il a ouvert les volets. Effectivement, c'était l'aube. Il devait être 6 heures du matin. Il m'a montré le jardin. « Tu vois, là, il y a des arbres. »
« Un artiste, c'est merveilleux. Quelle belle vie tu as dû avoir.
Ah, »« Ça pour une belle vie. »«
Tu avais du talent. »«
Eh bien, mon Dieu, la main sur la conscience, je peux dire que je n'étais pas trop mal. Seulement, voilà, on n'aimait pas ma tête à Paris. » Ça m'a fait du tort.
Tu jouais le drame ou la comédie ?
Je pouvais jouer les deux. Seulement voilà, je ne jouais jamais. Dans les grands théâtres, les grosses vedettes ont toujours une doublure, des fois qu'elles tombent malades. Eh bien, moi, toute ma vie, j'ai doublé quelqu'un. Quelqu'un qui n'était jamais malade. Il avait une santé de cheval, l'animal. Le foie, la grippe, les épidémies, rien ne pouvait le ficher au lit. Alors, moi, je ne jouais jamais, tu comprends ? Je ne suis pas devenu très célèbre.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia, avec à la technique Philippe Bredin. Elle a été préparée par Estelle Gap, Leila Kourousi-Liqua, Perrine Malinge, Claire Tesser et Fanny Leroy. Bonne soirée et à la semaine prochaine.
Merci Guillaume Gallienne. Et pour votre début de soirée juste après le journal, vous retrouverez Clara Dupont-Mono pour l'Amuse-Bouche. Ce soir, elle reçoit Stéphane Carlier pour son livre Amuse-Bouche, publié aux éditions du Cherche-Midi. C'est une farce contemporaine, un vaudeville, une comédie élégante et salutaire qui se délecte de nos petits travers. Vous en saurez plus tout à l'heure. Et puis à 20h, vous retrouverez Zoé Varier. Pour D'ici d'ailleurs, direction ce soir le Brésil avec Nazaré Pereira, chanteuse et compositrice brésilienne.